Interview.
1/3 du voix pour l'interview, émission que vous écoutez sur les ondes en 107.5 ou aussi l'émission est en podcast sur le site internet www.rdwa.fr. Aujourd'hui, nous sommes avec Anna Gasquet au téléphone. Bonjour.
Bonjour.
Anna Gasquet, vous êtes directrice de la maison Dromardèche.
Oui, exactement, la maison d'Europe Dromardèche.
Vous êtes ici pour nous annoncer un événement qui aura lieu le 9 mai, c'est-à-dire dimanche. C'est la date anniversaire de la déclaration de Robert Schuman avec la constitution des prémices de ce que sera la communauté européenne.
Exactement, voilà. Le 9 mai 1950, c'est la date à laquelle Robert Schuman a fait une déclaration qui est entrée dans l'histoire depuis, comme voilà un peu la date de naissance de ce qui est le projet européen avec au début la communauté européenne du charbon et de l'acier, puis la communauté européenne économique, puis l'Union européenne à partir de 92. Donc voilà, c'est cette date-là qui est retenue maintenant comme la journée de l'Europe chaque année.
Et donc, qu'est-ce qui sera constitué pour la date anniversaire? C'est un dimanche, j'imagine qu'il y aura... Quels événements prévus pour ce week-end?
Alors, cette année, c'est un petit peu particulier. En effet, bon, c'est un dimanche, ce sera ce dimanche 9 mai. C'est un peu particulier à cause du contexte sanitaire. Donc, on va participer à un certain nombre d'activités plutôt en ligne, notamment une fête de l'Europe en musique, qui donc la musique Europe Day, organisée par Europavox, le festival et également la Commission européenne et le Parlement européen, que nous rediffuserons sur nos réseaux sociaux, sur notre page Facebook Europe Direct Dromardèche. Et ce sera des concerts tournés de partout, dans tous les coins de l'Europe, dans des clairières, dans des églises, dans des musées, dans des places devant des places de gare. Et ce sera de 19h à minuit en direct, voilà, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, le Music Europe Day.
Europavox, c'est une institution européenne?
Non, Europavox, c'est un festival qui est organisé chaque année à Clermont-Ferrand, mais qui organise également un certain nombre d'événements autour de la musique, d'événements à dimension européenne, de coopération européenne. Et donc, c'est avec eux que nous organisons, que les institutions européennes organisent cette fête de la musique, cette fête de l'Europe en musique, le 9 mai.
Et puis, tout au long du mois de mai, il y aura une série d'ateliers proposés à raison de pratiquement un atelier par semaine, hein, voire plus. Et donc, ces ateliers, principalement, sont axés sur quelle idée?
Alors, en effet, pendant le mois de mai, on a une grosse, autant que possible avec la situation sanitaire, on a une grosse programmation proposée, notamment parce que, voilà, comme vous l'avez dit, il y a le 9 mai qui débute donc ce joli mois de l'Europe, comme on l'appelle, tout le mois de mai, c'est l'occasion de fêter la fête de l'Europe, mais également, ce sera le lancement de la conférence pour l'avenir de l'Europe qui va se mener au travers toute l'Union européenne. C'est une consultation en fait auprès des citoyens sur ce qu'ils souhaitent faire de l'Union européenne et ça va avoir lieu pendant les prochains mois jusqu'au printemps de l'année prochaine et ça va être lancé également le 9 mai en ligne en direct au sein du Parlement européen à Strasbourg. Ça aussi nous le transmettrons sur nos réseaux. Mais comme vous disiez, il y a également toute une série d'ateliers prévus à destination des personnes qui travaillent avec les demandeurs d'emploi auprès de Pôle emploi, à destination des enseignants et des animateurs jeunesse, à destination aussi des jeunes directement. Donc on a prévu voilà des plein de différents ateliers, certains en ligne et certains aussi en présentiel. Ce sera le cas de notamment le 18 mai, un atelier à destination des enseignants et des professionnels jeunesse qui aura lieu à Priva pour une formation sur les dispositifs financiers et pédagogiques pour parler de mobilité européenne et de citoyenneté européenne aux jeunes.
Si j'ai bien compris, donc il va y avoir une période de prise de voix ou de parole auprès des citoyens pour l'année à venir.
Exactement.
Et cette parole permettrait de constituer d'autres avancées ou de reconforter des avancées déjà débutées.
C'est l'idée en effet de pouvoir recueillir auprès des habitants, des citoyens, leurs idées. Il y a une plateforme qui est mise en place en ligne et sur laquelle justement on va pouvoir, chacun va pouvoir exprimer son opinion, mais aussi nous, quand nous organiserons avec les habitants des activités, des ateliers, nous pourrons reporter les résultats de ces discussions, par exemple les opinions autour des questions de l'environnement, autour des questions de l'agriculture, de l'éducation, du commerce. On va pouvoir comme ça, chacun et chacune pourra s'exprimer à ce sujet et ceci sera remonté auprès des institutions décisionnaires, la Commission, le Parlement, le Conseil de l'Union européenne avec les ministres pour qu'ils puissent faire avancer en effet comme vous disiez l'Europe en fait et faire avancer les décisions européennes dans le sens que souhaitent en fait les citoyens.
Ça permettrait aussi d'analyser aussi toutes ces données et de manière aussi à peut-être constituer une synthèse ou dite européenne avec comme on sait la disparité des lois qui régissent chaque pays.
Exactement, c'est l'idée d'arriver vers une série de débats en fait, hein, de discussions qui permettrait à chacun de façonner en fait un peu mieux l'Europe à l'image de ce qui est bon pour tous.
Ces ateliers sont permis grâce à quel soutien et puis quels sont les principaux partenaires?
Alors nous travaillons avec un grand nombre de partenaires, par exemple Pôle emploi et qui gère notamment le réseau européen pour la mobilité professionnelle. On est en partenariat avec eux pour des formations que nous proposons pour les animateurs, les conseillers Pôle emploi. Nous sommes également en partenariat pour des ateliers en ligne avec la région académique Auvergne-Rhône-Alpes et également le réseau Canopée de centres de documentation pour les enseignants. Là, c'est des ateliers qui permettent par exemple aux enseignants de réfléchir à comment inclure les questions autour de l'Union européenne dans leur discipline, comment trouver aussi des ressources pédagogiques pour parler de cela à leurs élèves. Nous avons également des partenariats avec des lycées pour des journées de simulation du Parlement européen, par exemple avec le lycée Montplaisir à Valence, une journée aussi autour de la citoyenneté européenne et des langues à La Boulte avec le Collège des Trois-Vallées, ou encore une journée européenne, une fête de l'Europe avec le lycée Gabriel Faure à Tournon. Ça c'est pour les partenariats. Et puis aussi des partenariats avec des radios, avec d'autres radios, par exemple Radio BLV avec laquelle nous construisons des émissions radio sur notamment la mobilité des jeunes et également pour parler de l'actualité européenne.
La constitution de ces ateliers correspond aussi à une demande de la population et des habitants, justement, à une certaine, comment dire, un certain désir d'apprendre ou de connaître.
Oui, c'est tout à fait ça. En général, Europe Direct, Drôme Ardèche, on répond à des sollicitations. C'est le cas de les ateliers que je citais avec Pôle emploi ou avec la région académique ou encore avec des établissements scolaires. C'est souvent suite à des échanges qu'ensuite ils reviennent vers nous avec une demande particulière de réaliser telle ou telle session de formation, tel ou tel atelier pour répondre aux besoins de ces personnes par rapport à leur public.
Alors ça répond un petit peu à ce qui se passe en région Rhône-Alpes, hein, ou plutôt Drôme-Ardèche. Est-ce que, justement, comment se remonter justement ces demandes à l'heure actuelle, avant ce dispositif qui est proposé pour l'année à venir?
Alors, ça se fait quand même beaucoup par des contacts assez habituels, je dirais, nos réseaux sociaux, nos rencontres avec les personnes lors d'événements. Alors c'est vrai que actuellement il y a un petit peu moins de rencontres physiques, mais voilà, on est suffisamment connu par un certain nombre de partenaires qui reviennent vers nous pour nous demander d'intervenir sur le territoire. Donc ça se fait un petit peu par le réseau, ça se fait, on fait appel à nous par des recherches tout simplement sur Internet, en trouvant notre site Internet ou en nous contactant par mail et téléphone.
Et puis donc commencent ces ateliers dès aujourd'hui, donc et même ça avait commencé à partir du 3 avec la semaine Erasmus et It Winning. Un levier, un levier pour une citoyenneté numérique internationale. Alors, comment peut-on définir cet aspect de la citoyenneté numérique internationale?
Alors, parce que eTwinning, en effet, fait référence à un programme qui permet de créer des jumelages, des appareillements entre établissements scolaires d'un pays à l'autre, mais en ligne. Et c'est vrai que avec la situation sanitaire de l'année qu'on vient de passer, ça s'est d'autant plus développé parce que voilà, les classes, les établissements ne pouvaient pas forcément se déplacer. Et donc voilà, eTwinning, c'est en effet une manière de parler, de rencontrer d'autres jeunes en Europe, d'échanger sur voilà, des sujets communs mais qu'on vit différemment d'un pays à l'autre, et comme ça aussi de se rencontrer, de développer ainsi une proximité et une identité de citoyen européen. Et donc voilà pourquoi on parle de levier pour créer une citoyenneté numérique au niveau européen.
Je vois donc qu'aujourd'hui débute à 14h une rencontre numérique, donc qui s'intitule « Comment inclure l'Union européenne dans ma discipline ?» Actualité et grands défis de l'Union européenne, voilà le titre. Qu'est-ce qu'une discipline déjà, peut-on définir? C'est la profession par exemple?
Oui, parce que là, cet atelier s'adresse à des enseignants. Donc voilà, c'est quand ils parlent de leur discipline, c'est-à-dire si c'est les maths, la musique, le théâtre, l'histoire géo ou les langues, voilà. Et comment chaque enseignant peut éventuellement trouver un angle pour parler de l'Union européenne, pour parler de l'Europe, par rapport à sa discipline. Alors ça peut être par le biais de la musique, ça peut être dans le domaine de l'économie, ça peut être voilà, dans le domaine des langues, comme je l'ai dit.
Il y a ensuite, toujours aujourd'hui, à la suite, entre 15 et 16 heures, quelles ressources pédagogiques disponibles sur l'Union européenne? Alors là, c'est un grand sujet, je pense.
Exactement. Oui, nous avons alors le réseau Europe Direct, puisque du coup ces ateliers sont animés par différents de mes collègues aussi au niveau du réseau de toute la région Auvergne-Rhône-Alpes. On est six centres Europe Direct, pardon. C'est chacun d'entre nous produit des ressources pédagogiques, des outils en ligne et en physique, disons en papier ou sur des supports pédagogiques qui peuvent être utilisés, empruntés ou répliqués par les enseignants pour parler de l'Europe dans leurs cours. Ça va être des jeux, ça va être des animations, justement, je le citais tout à l'heure, pour créer des simulations du Parlement européen, ou alors des jeux de loi ou des grandes cartes pour animer des jeux pédagogiques autour de l'Europe.
Et puis cette inscription obligatoire, hein, je pense, pour assister à ces consultations numériques par le site eTwinning, c'est ça?
Oui, eTwinning, c'est le site qui peut concerner toutes personnes, établissements scolaires qui souhaitent développer une coopération avec d'autres établissements en Europe.
On revient ensuite au dimanche 9 mai, donc cette fête de l'Europe en musique, comme oui. vous l'aviez cité. Comment ça se passe au niveau des artistes ou des représentations de chaque pays? Il y a une sélection qui s'est opérée? Comment ça se déroule, par exemple, la présentation d'un artiste représentatif?
Oui, alors c'est beaucoup de jeunes artistes européens, pas forcément encore très connus, qui seront présents ce jour-là, et on leur a demandé de représenter, voilà, de ce jour-là jouer chez eux dans leur cadre habituel, dans leur ville ou dans la campagne, jouer un morceau qui sera donc du coup repris en direct, et donc c'est toute une série de reprise dans différents pays européens, et tout ça sera disons connecté en un même canal pour cette European Music Day.
Voilà, et donc c'est prévu à partir de 19h à minuit, hein, sur les sites voilà. de réseaux sociaux.
Exactement, c'est ça.
Ensuite, la semaine suivante, à partir du mardi 11, il y a des présentations d'ateliers de simulation du Parlement européen avec oui. les élèves de la section euro du lycée Montplaisir. Le lycée Montplaisir est un lycée général ou spécialisé ?
Alors, c'est un lycée qui a professionnel, technologique également. Il y a différentes sections. Et là, il s'agit de la section euro, c'est-à-dire qui des élèves ont une option un petit peu plus poussée sur les langues, l'anglais, l'espagnol. Et voilà, dans le cadre de cette option-là, avec leur enseignant, ils souhaitaient un petit peu plus aller plus loin pour connaître la dimension européenne, le fonctionnement de l'Union européenne, de ses institutions, comprendre comment se passe le processus, disons, de décisionnaire au niveau européen. Et donc, avec eux, on fait à deux reprises, sur deux demi-journées, un atelier de simulation du Parlement européen, c'est-à-dire qu'on va, chacun va être dans le rôle d'un eurodéputé ou d'un ministre ou d'un lobbyiste pour simuler. Voilà, donc c'est un exercice un petit peu, disons, simplifié, bien sûr, par rapport à la réalité, mais on va simuler comment une prise de décision se fait pour, donc, avec chacun qui va amener sa proposition de loi sur un sujet, avoir justement, là on décide avec les enseignants quel est le sujet qui les intéresse, et puis chaque élève, chaque groupe d'élèves va, selon son rôle, aller proposer quelque chose et un petit peu essayer de jouer le jeu de le proposer selon son angle différent, voilà, selon s'il est eurodéputé ou s'il représente tel ou tel pays ou s'il représente tel lobby, par exemple, qui voudrait aller dans un sens particulier. Et puis après, il y a la session de vote où tous ensemble, ils vont voter pour ce qui leur a semblé comme proposition plus convaincante.
Cette simulation impose un échange avec un autre pays, une autre
Alors,
classe
là,
une...
Non. Non. Là, on ne le fait pas, on pourrait le faire, mais dans ce cas-là, on le fera uniquement avec la classe ici en local à Valence. Mais oui, ça pourrait tout à fait, dans certains cas, être envisagé d'avoir une partie des échanges qui se passe aussi avec d'autres classes européennes. Surtout que maintenant, on a tous testé les visios assez bien et que on peut tout à fait inclure cela dans ce type d'exercice de simulation. Et disons que ces interventions qu'on fait, elles sont vraiment quand même très, je dirais, sur mesure par rapport à ce que demandent les enseignants. Et nous, on va essayer de s'adapter après à chaque demande. Et voilà, si le souhait aussi de le faire en lien avec une classe d'un autre pays, on peut tout à fait mettre ça en place.
Ensuite, la semaine suivante, le mardi 18, à Privas, donc de 14h à 17h30, vous parliez justement des ateliers Europe et mobilité à destination des enseignants et professionnels de jeunesse. Quelle est cette problématique vis-à-vis de ces déplacements ou de mobilité? Qu'est-ce qui est exprimé sur ce terme?
Eh bien, là, on est sur donc des ateliers à destination des professionnels et des donc professionnels jeunesse et enseignants. On en réalise un par mois en ce moment. Ce mois-ci, il sera à Privas. Le mois d'après, il y en aura un au Teil. On en a fait déjà 6 ou 7. Et c'est des ateliers où il y a maximum une dizaine de personnes et qui peuvent comme ça découvrir, disons, plus en détail ce qui est disponible pour eux, pour monter des projets européens, donc en termes de financement accessible, par exemple avec l'Office franco-allemand de la jeunesse ou des dispositifs comme le Corps européen de solidarité ou encore le programme Droits et valeurs qui était avant, disons, s'appelait le programme L'Europe des citoyens. Et c'est des programmes qui permettent, voilà, de développer des projets, de trouver des financements, disons, additionnels éventuellement pour permettre à ces personnes, à ces établissements, à ces associations de monter des projets avec d'autres pays européens. Et puis, ces ateliers qu'on propose, c'est également la découverte d'outils pédagogiques que, voilà, comme je disais tout à l'heure, que nous créons, que nous mettons à disposition, une véritable mallette pédagogique qui est donnée après après l'atelier et que chacun peut emporter avec soi. Et c'est des outils qui permettent après, en classe ou avec des groupes de jeunes, d'aborder toutes ces questions autour de la citoyenneté européenne, autour de la mobilité. Parce que c'est vrai que des fois, les enseignants n'ont pas forcément, savent pas forcément comment aborder ces questions-là ou les professionnels jeunesse avec les jeunes. Donc, on leur donne un petit peu des billes, des outils un petit peu plus, pédagogiques et ludiques pour le faire.
Le mercredi 19 et ainsi que le mardi 25, hein, entre 18h et 19h30, il y aura toujours cet aspect de déplacement à l'adresse des professionnels européens. Et puis, vous proposez aussi de découvrir les métiers au sein des institutions européennes. Quels sont ces types de métiers ?
Alors, il y en a un très grand nombre de métiers, et c'est justement le but de ces sessions que nous appelons Parcours Europe, qui est à destination des jeunes et des étudiants, et qui est plutôt un but, disons, d'orientation pour découvrir ces différents métiers de la sphère européenne, parce que voilà, on peut travailler autour des questions européennes au sein des institutions, au sein des agences européennes, ce sera le cas pour deux personnes de l'Agence européenne pour l'environnement qui est au Danemark, qui seront connectées avec nous ce jour-là pour nous présenter leur travail au niveau européen dans le domaine de l'environnement. Mais on aura également une personne de la Direction générale des migrations et des affaires intérieures qui, lui, travaille au sein de la Commission européenne. Donc là, ce sera un autre type de métier directement au sein de la Commission. Puis on a eu aussi déjà dans les sessions précédentes interviewé des eurodéputés. Michel Rivasi était présente et également Alain Dumort qui est le chef de la représentation de la Commission européenne à Marseille. Voilà, donc les métiers autour des questions européennes sont assez nombreux. Justement, le but de ces sessions que nous voulons organiser régulièrement, une fois par mois, à destination des jeunes et des étudiants, c'est justement de montrer tout l'éventail de métiers qu'il peut y avoir autour des questions européennes, autant au sein des institutions que d'associations ou de structures qui travaillent autour des questions européennes.
Je voulais savoir, par rapport à l'Agence européenne pour l'environnement, quelle est son importance dans la politique européenne et est-elle au-delà de ce que la France consacre sur l'environnement ?
Alors, l'Agence européenne pour l'environnement, son rôle, comme les agences européennes, c'est des organes de l'Union européenne qui sont là pour soutenir, appuyer, par des recherches, par des rapports d'évaluation, soutenir le travail de législation européenne, c'est-à-dire ce travail-là, il va de l'Agence européenne pour l'environnement, il va être pour aller rassembler des données sur l'état de la pollution de l'air, sur l'état de la biodiversité ou sur l'évolution du changement climatique au niveau européen, de manière à ce qu'après, le législateur européen, au sein du Parlement européen, auprès de la Commission ou des États membres, puisse avoir des données fiables, pertinentes pour évaluer son travail et savoir si justement comment légiférer et dans quelle direction. Et donc l'Agence européenne pour l'environnement, c'est plutôt un organe qui va être en appui au travail de législation européenne.
Ensuite, le mardi 25 mai, avec Nicolas Bessot, de la Direction Générale de la Migration et des Affaires Intérieures de la Commission Européenne, interviendra dans un contexte qui sera lequel ?
Alors là, il parlera de son emploi pendant sa mission au sein de la Direction Générale de la Migration et des Affaires Intérieures, donc autour des questions migratoires. Ça va être très, très intéressant justement d'entendre comment, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur des unités de la Commission européenne autour de ces questions-là, comment justement, quel est son travail pour comprendre ce qui se passe au niveau européen en termes de migration.
Un sujet très épineux actuellement.
Bien sûr.
Et donc, est-ce qu'il y aura moyen aussi d'échanger des paroles avec Nicolas Bessot ?
Tout à fait. C'est vraiment ces sessions sont pensées comme un peu, on les appelle des apéros en ligne, dans le sens que c'est fait pour être un temps d'échange très informel et très, disons, à bâton rompu, on peut parler, poser des questions. Bon, bien sûr, idéalement, ce serait beaucoup mieux en présentiel, mais on le fait en ligne actuellement, ce qui nous permet également aussi, pour le coup, d'avoir des personnes d'un peu plus loin, de Bruxelles ou de Copenhague, en l'occurrence, qui n'auraient pas forcément été présentes sur des rencontres en présentiel. Donc, ça a aussi son avantage.
Ça, c'est une exigence européenne aussi d'aborder ce sujet de la migration au niveau de l'Europe avec ces modules tels que le vôtre, d'amener la réflexion sur le sort des migrants.
Tout à fait, c'est important qu'on puisse comprendre ce qui se passe au niveau des institutions européennes sur cette question-là, comment les décisions se prennent. Donc c'est important en effet que les citoyens, les jeunes, les étudiants en l'occurrence, puissent poser leurs questions pour bien comprendre en fait comment les décisions sont prises ou comment disons les données sont récoltées, quel est le rôle en fait de la Commission sur ces questions-là. Donc Monsieur Bessot va nous parler de ça puisque c'est son travail au quotidien.
Par rapport justement à la migration au niveau de l'Europe, on peut constater des disparités flagrantes de traitement, quoique il y a une certaine homogénéisation sur un certain rejet des migrants à l'intérieur des frontières européennes. Qu'est-ce que vous voulez faire avec ce genre d'entretien ? C'est peut-être d'établir un état des lieux, des mentalités, des opinions sur ce sujet ?
Alors là, c'est quand même des entretiens qui sont beaucoup plus autour des métiers. Parce que voilà, c'est comme ça qu'on a entendu cet atelier-là. On a d'autres opportunités des fois pour discuter du fond en termes de débat sur les questions migratoires. Là, cette rencontre le 25 mai qu'on a appelé Parcours Europe, c'est vraiment plutôt pour en comprendre les métiers et donc du coup par exemple comment cette personne-là travaille autour de ces questions. Bien sûr, après, elle va pouvoir nous parler des difficultés peut-être rencontrées ou observées sur ces questions-là au niveau européen. Quels sont les blocages ou quelles sont les choses qui font difficulté pour avancer autour de ces questions. C'est certain que avec Monsieur Bessot, on pourra aborder cela, mais c'est vrai que on n'est pas là sur un débat, disons, contradictoire avec différents intervenants qui vont pouvoir traiter d'une question, de cette question-là, de manière plus globale, voyez.
Jeudi 20 mai, à Tournon, ça sera la journée européenne au lycée Gabriel Faure, avec au programme un jeu de loi, des expositions sur les langues et sur le pacte vert, carte géante de l'Union européenne et exposition et quiz sur les langues. Le pacte vert, on pourrait préciser ce que c'est ?
Oui, le pacte vert, c'est cet ensemble d'orientations que s'est donné l'Union européenne depuis la nouvelle, disons, 2019, un nouveau Parlement européen a été élu, puis une nouvelle Commission européenne qui est présidée par l'Allemande Ursula von der Leyen. Et les grandes priorités européennes qui ont été dessinées avec cette nouvelle mandature, notamment, c'est le pacte vert, le Green Deal, comme on l'appelle en anglais, qui a comme objectif principal de faire de l'Union européenne un continent climatique climatiquement neutre d'ici 2050. Ça veut dire quoi? Ça veut dire beaucoup de différentes axes de travail autour de l'alimentation, de des émissions de gaz à effet de serre, de tout ce qui est transport, de tout ce qui est bâtiment, architecture. Donc ça se décline en de très nombreux aspects, ce pacte vert, mais disons que c'est un objectif global principal qui va un petit peu traverser, qui va être transversal, se retrouver au niveau de toutes les politiques européennes, allant de l'agriculture à la jeunesse et en passant par tout ce qui est transport, énergie. Voilà, c'est le pacte vert.
Et puis la voulte, ça sera encore des animations au collège, et ça c'est dans le cadre international des langues.
Exactement. À la voulte, le vendredi 21, on interviendra au collège des Trois-Vallées et autour d'une animation autour des langues.
Et puis on revient avec votre partenariat avec Radio BLV, donc, et là seront opérés plusieurs rendez-vous, à commencer par l'Europe du côté de chez nous. Donc ça, c'est ça se présente comment? Il y aura des diffusions les 17 et 24 mai, donc d'émissions sur des titres comme Top Départ pour l'Europe centrale et de l'Est. Quels sont les tenants de cette démarche?
Avec Radio BLV, en effet, on a un partenariat, une coproduction d'une émission mensuelle autour de l'actualité européenne, donc ça s'appelle l'Europe du côté de chez nous, qui est diffusée donc les troisièmes, alors les lundis, quatre fois par mois. Vous pouvez retrouver toutes les infos sur radioblv.com et puis aussi sur nos réseaux sociaux et sur notre site web. Mais là, en effet, pour le mois de mai, ce sera le lundi 17 et 24 mai à 19h, et puis le dimanche 23 et 30 mai à 10h. Et c'est chaque mois une émission qui nous permet de faire un point sur l'actualité. Et là, ce mois-ci, on parlera en particulier du joli mois de l'Europe et de la conférence sur l'avenir de l'Europe dont je vous parlais tout à l'heure.
Vous proposez aussi, voilà, oui.
On a également un spécial autour de la mobilité des jeunes avec un focus sur une destination particulière. Et ce mois-ci, le mois de mai, on va parler de l'Europe centrale et de l'Est. Et donc l'idée étant d'inviter des jeunes témoigner de leur expérience de mobilité pour donner les clés du voyage et puis l'envie de eux aussi partir à d'autres jeunes, partir vivre, étudier ou travailler à l'étranger. Donc on présente des témoignages de jeunes, mais aussi différentes structures, associations qui peuvent aider ces jeunes, les accompagner sur dans leur projet. Et là, le premier direct aura lieu demain, jeudi 6 mai à 19h, et puis il y a des rediffusions le dimanche 9 et 16 mai, et puis également le 13 mai.
On pourra y découvrir tous les programmes sur le site de Radio BLV et puis sur le vôtre aussi. Vous proposez également des balades européennes commentées, donc histoire de montrer l'importance l'avènement de l'Europe dans le quotidien.
Exactement, c'est ça. Les balades européennes commentées, c'est une manière, on s'est dit, de découvrir l'Europe et l'action de l'Europe tout autour de soi, dans notre quotidien, près de chez nous. Et donc, on propose comme ça, alors, pendant le mois de mai, à des groupes scolaires, notamment parce qu'en ce moment, on ne peut pas faire des rassemblements plus importants. Donc, on le propose uniquement à des scolaires pour l'instant, mais pour la suite, ce sera ouvert à d'autres publics. Et là, c'est donc proposé en ce moment dans le centre-ville de Valence. Donc une visite qui dure à peu près une heure pour aller découvrir, déambuler dans le centre-ville, comment devant le musée, devant telle pharmacie, telle boutique d'alimentation, ou en passant devant la mairie ou l'arrêt de bus, découvrir l'action de l'Europe au travers de différentes thématiques.
Pour finir, le samedi 29 mai, ce sera l'inauguration du nouveau local de la Maison de l'Europe à Valence. Ça se déroulera entre 14 et 18 heures, ce sera un samedi. Cette Maison de l'Europe était une nécessité pour mieux accueillir?
Oui, tout à fait. Nous manquions un petit peu de place et donc puis nous étions un peu plus excentrés par rapport au centre de Valence. Donc voilà, maintenant nous avons un nouveau local au 186 rue Victor Hugo à Valence. Et voilà, c'est l'occasion de faire un petit temps festif, une inauguration le samedi 29 mai entre 14h et 18h, de montrer les différents outils que nous pouvons proposer, les activités que nous proposons autour de, voilà, de la mobilité internationale, de la citoyenneté ou du pacte vert, comme j'ai cité tout à l'heure. Et on fera aussi un temps radio, là encore, avec le studio Radio Vélo de Radio Méga qui sera présent ce jour-là avec des élus également qui répondront à quelques questions autour de la citoyenneté européenne.
Ces animations du mois de mai donc sont constitutives aussi d'un processus qui se renouvelle chaque mois.
Oui, tout à fait. Oui, nos actions sont continues. Donc là, on parle des actions au niveau du mois de mai, mais c'est vrai que ça continuera au mois de juin et ainsi de suite. Tout à fait.
Et donc, effectivement, il y a cet agrément donc que vous avez eu en renouvellement et qui s'intitule donc le label Direct Europe Direct Drôme Ardèche pour oui. vous avec une durée de 5 ans. Quels sont les apports de ce label dans votre activité ?
Eh bien, Europe Direct comme label, donc c'est en effet accordé par la Commission européenne aux structures qui souhaitent être un point d'information, un point relais, un centre ressources sur l'Europe pour les citoyens. Et nous, comme ça, en participant à ce réseau qui est constitué de 430 centres en Europe et de presque 50 centres en France, ça nous permet d'être plus en lien avec les différents pays européens, de pouvoir collaborer, trouver facilement aussi des partenariats avec pour les porteurs de projets locaux qui voudraient monter des projets. Nous pouvons comme ça aider à créer des liens entre différents établissements, différentes villes, différentes associations européennes. Nous pouvons comme ça co-construire des outils pédagogiques mutualisés entre nos centres, et donc on a cette capacité d'avoir un petit peu plus de pouvoir d'action en étant dans ce réseau Europe Direct. Et puis c'est également par le biais de cet agrément, nous recevons une subvention de l'Union européenne qui du coup soutient en grande partie l'action de la Maison de l'Europe en Ardèche.
La Maison de l'Europe Drôme Ardèche a-t-elle un site internet pour pouvoir justement se documenter sur ce mois de mai ?
Oui, tout à fait. Alors, vous pouvez trouver, notre site, c'est mde-6 Lyon, comme la ville de Lyon, .eu. Voilà, ça c'est notre site web qui est commun en fait entre les centres Europe Direct de Lyon, Lyon Métropole et Drôme Ardèche. Et là-dessus, vous allez trouver des informations, non seulement sur notre programmation, sur nos événements, mais aussi sur l'actualité européenne et puis les outils pédagogiques dont j'ai parlé, que ce soit en ligne ou qui sont disponibles en prêt, comme des expositions, des jeux, et puis toutes les informations sur les financements européens, sur les dispositifs de mobilité pour les jeunes.
Mis à part donc ces prises de parole, ces présentations d'activités ou d'ateliers, qu'en est-il aujourd'hui de votre secteur d'activité ? Est-ce que vous êtes dans une certaine sérénité ou il y aurait encore beaucoup de progrès à faire pour contenter un petit peu la demande ?
Alors oui, je pense qu'il y aurait encore beaucoup de progrès et de moyens humains en particulier à avoir pour davantage répondre aux demandes, parce que finalement on se rend compte qu'en Drôme Ardèche, ce sont des départements qui ne font pas beaucoup appel, autant pour au niveau de la mobilité des jeunes que des financements européens par des associations, des structures, des entreprises. On est encore sur des taux très bas par rapport à d'autres territoires en France. France, par exemple, parce que, voilà, je pense qu'il faudrait davantage de travail d'information auprès du public, différents porteurs de projets potentiels sur les opportunités qui sont à disposition pour eux et les aider, les accompagner dans l'accès à ces opportunités. Donc, d'une certaine manière, oui, je pense que le travail que l'on fait pourrait être encore plus important, décuplé en termes d'action, d'information, de présence sur le territoire, d'accompagnement des personnes, des habitants, des professionnels. Tout à fait.
Anna Gasquet, je vous remercie de nous avoir donné un peu de temps pour RTVA et de nous parler ainsi de la Maison de l'Europe Drôme Ardèche. Et je vous souhaite une bonne fin de soirée.
Merci beaucoup. À vous aussi.
Au revoir.
Au revoir.
Thank you.